Info matin, Nicolas Legrand.
Qui sera le prochain président du Congrès ? Le suspense reste entier. L'institution renouvelle son bureau dans un contexte post-13 mai. La figure de Roch Ouamitan pose question, voire problème, et le rapport de force reste incertain après les tractations. L'UPM et le Palika ne feront pas le déplacement à Koumak. Les deux composantes du FLNKS ne participeront pas au Congrès du Front. Pas de feu d'artifice ni de féerie de Noël. La mort dans l'âme, la mairie de Nouméa met en place un plan d'économie drastique. Hier, les élus ont voté une baisse du budget primitif de 3 milliards de francs. Pas d'avancée dans les consultations pour Matignon. Laurent Wauquiez a été reçu à l'Élysée la nuit dernière. Un rendez-vous décevant selon le chef des députés de la droite républicaine. Le sport et les Jeux paralympiques sont ouverts. 11 jours de compétition à Paris et la magie semble déjà opérée. Pierre Ferbanque, Félicien Siapo et Vittorio Cavacava représenteront la Nouvelle-Calédonie dans l'équipe de France. La météo, le très beau temps se maintient sur l'ensemble du territoire. Les températures maximales sont stables, allant de 24 degrés à l'île des Pins jusqu'à 27, voire 28 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique et institutionnelle.
Et oui, Eva Imoua Mouliava qui démissionne du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est un coup de théâtre sur la scène politique alors que l'élu de l'éveil océanien siégeait dans l'exécutif depuis 2019. Il était en charge des secteurs de la construction, du patrimoine immobilier, de l'urbanisme et de l'habitat, mais aussi du secteur de la fonction publique. Et à ce titre, il supervisait notamment la réforme de la CLR. Et il suivait aussi les dossiers liés à la transition numérique. L'annonce de sa démission a commencé à circuler dans l'après-midi d'hier, sans qu'aucune communication officielle ne soit faite. Selon nos informations, c'est à la demande de son parti que Vaimoua Mouliava a démissionné du gouvernement, parce que cela va lui permettre de siéger de nouveau au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'éveil océanien disposera ainsi de nouveau de 3 sièges dans l'hémicycle du boulevard Vauban, alors qu'il en avait perdu un avec la défection de Maria Isabella Saliga Lutovica, qui siège désormais en non-inscrit. Une démission de Vaimoua Mouliava qui serait donc liée directement à la séance du Congrès qui se tient aujourd'hui pour le renouvellement du bureau et du président de l'institution, Elisabeth Noir.
C'est aujourd'hui qu'ont lieu le renouvellement du bureau et du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La séance solennelle débutera à 9h et elle pourrait en effet réserver des surprises après la démission de Vaimoua Mouliava du gouvernement. Depuis le début de la mandature en mai 2019, l'élection du président du Congrès a des allures de simple formalité. À chaque fois, Roch Ouamitan est élu à la présidence avec les voix de l'UCFLNKS, de l'UNI et de l'éveil océanien, soit 29 voix, alors que la majorité absolue est de 28. Cette année, Roch Ouamitan devrait encore être candidat à sa succession et deux candidatures non indépendantistes ont été annoncées, celle de Nayawateu pour les loyalistes et le rassemblement et celle de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Mais un nouveau scénario va peut-être s'écrire cette année parce que les lignes ont bougé au Congrès et parce que le 13 mai a rebattu les cartes. Clairement, nous disait hier matin Nayawateu, la candidature de Roch Ouamitan pose question, voire pose problème.
Une personne qui, dans le cas des exactions qui ont été commises le 13 mai, finalement, ne s'est pas exprimée très clairement. Des propos qui ont été tenus, même avant les exactions, je le rappelle quand même, le seuil de tolérance des Blancs est atteint. C'est des propos qui sont inacceptables et scandaleux lorsqu'on préside une institution comme le Congrès, qui est censée représenter l'ensemble des Calédoniens. Une personnalité qui, aujourd'hui, endosse aussi une casquette de responsable coutumier. Et là, je pense notamment aux citoyens mondoriens qui subissent de plein fouet aujourd'hui le fait qu'il ne se passe rien sur Saint-Louis, que les exactions qui sont faites en interne ne sont pas condamnées. On a un chef coutumier qui aujourd'hui ne tient pas ses troupes et qui représente aujourd'hui l'institution et les Calédoniens. Ça, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que les Calédoniens ont besoin de se sentir beaucoup plus représentés, beaucoup mieux représentés au sein de cette institution.
Dans ce contexte, on parle d'une possible candidature de l'éveil océanien qui pourrait trouver une majorité pour évincer Roch Ouamitan. En l'occurrence celle de Velma Falaeo, des informations à prendre bien sûr au conditionnel. Mais le rapport de force est incertain. Actuellement, 24 élus se revendiquent du camp des partisans de la France, 25 élus siègent dans les groupes indépendantistes, et il y a 5 élus non inscrits, dont seulement 2 élus de l'éveil océanien. La majorité absolue, rappelons-le, est de 28. Ce serait pour que l'éveil océanien retrouve ses 3 sièges au sein du boulevard Vauban que Vaimoua Mouliava a démissionné du gouvernement à la demande de son parti. Manifestement, les jeux ne sont pas faits et la séance de ce matin pourrait donc réserver des surprises ou pas. La réponse dans la matinée.
Et après l'élection du président, les élus devront ensuite procéder au renouvellement du bureau et des commissions internes du Congrès. Trois listes ont été déposées pour l'élection des 8 vice-présidents, pour celle des secrétaires, pour celle des questeurs et pour l'élection de la commission permanente. Une liste déposée par le groupe UCFLNKS et Nationaliste, conjointement et le groupe Uni. Une liste déposée par le groupe Loyaliste et le groupe Rassemblement. Et une liste déposée par le groupe Calédonie Ensemble. Et puis, 5 listes ont été déposées pour l'élection des membres des commissions intérieures. Et chaque groupe donc fait cavalier seul. Une liste déposée par le groupe UCFLNKS et Nationaliste. Une liste déposée par le groupe Loyaliste. Une liste déposée par le groupe Uni. Une par le groupe Rassemblement et une par le groupe Calédonie Ensemble. Une élection du bureau et du président du congrès donc, qui intervient à la veille du congrès du FLNKS qui doit se réunir, lui, demain et samedi à Koumac, sans l'UPM et sans le Palika. C'est un véritable coup de théâtre pour la coalition indépendantiste. L'UPM a annoncé la première qu'elle ne participerait pas au congrès du Front et dans la foulée, le Palika annonçait à son tour qu'il ferait défection. Pour ces deux composantes du FLNKS, les conditions ne sont tout simplement pas réunies pour tenir ce congrès, Elisabeth.
C'est par un communiqué publié hier en fin de matinée que l'UPM a annoncé sa non-participation à la réunion du bureau politique prévue hier, ainsi qu'à la réunion du congrès FLNKS programmée les 31 août et 1er septembre à Koumac. Son président Victor Soutougoro rappelle que le consensus est le mode de décision du FLNKS et il déplore que l'ordre du jour proposé pour le congrès n'ait pas recueilli la validation de l'UPM. Il regrette également l'absence du débat sur la stratégie de fond que le FLNKS devra poursuivre.
Le congrès du FLNKS a été convoqué alors que nous n'avons pas validé. Je rappelle que le mode de décision au sein du FLNKS, depuis sa création, c'est le consensus. Donc il n'y a pas eu de consensus pour convoquer le congrès du FLNKS sur la base de l'ordre du jour qui a été communiqué. Et donc, on déplore que la question de la stratégie du FLNKS n'ait pas retenu l'attention de ceux qui ont convoqué ce congrès, notamment donc, de l'animation du FLNKS, l'animation du bureau politique, et dire mais c'est sur quelle stratégie le FLNKS est engagé aujourd'hui. Est-ce que c'est sur stratégie qu'on a observé depuis des années sur la base de la poignée de main pour construire ensemble le pays, ou alors on est sur une autre stratégie qui consiste à imposer nos points de vue. Et donc nous disons, ça n'a pas été retenu la nécessité de clarifier ce que nous devions faire à Netshaot et qu'on n'a pas pu faire.
L'UPM regrette qu'il n'y ait pas de débat sur la stratégie et il estime également que les conditions ne sont pas réunies parce que le climat n'est pas suffisamment apaisé.
Tout ce qui a été fait depuis le 13 mai, l'UPM ne se reconnaît pas et donc on ne peut pas valider ces choses-là. C'est pour ça qu'on pose le problème de la stratégie du FLNKS. Et donc, par ailleurs, en disant que le climat n'est pas apaisé, il n'y a pas les conditions d'un débat apaisé compte tenu du fait qu'il y a toujours des difficultés à circuler. Il n'y a pas d'apaisement dans les propos qui font part des communications officielles du FLNKS. Je rappelle que le débat doit être apaisé pour que on puisse débattre de l'avenir institutionnel du pays dans des bonnes conditions et la reconstruction du pays suite aux émeutes depuis le 13 mai. Donc les conditions du débat ne sont pas réunies.
Et peu après, c'est le Palika, par la voix de son chef de groupe au Congrès, Jean-Pierre Diaoué, interrogé en marge de la séance du Congrès, qui annonce qu'il ne participera pas, lui non plus, au congrès du FLNKS.
Nous avons rencontré les responsables de l'Union calédonienne hier, les membres du bureau politique du Palika et a rencontré les membres du bureau de l'Union calédonienne. Et nous avons dit que dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se réunir en congrès. Et donc le Palika aussi ne participera pas à ce congrès. C'est ce que nous avons dit hier dans la rencontre que nous avons eue avec les responsables de l'Union calédonienne. On dit les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que l'on tienne un congrès du FLNKS. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes toujours dans la démarche adoptée lors de nos derniers congrès. C'est-à-dire qu'il faut que l'on s'inscrive dans une démarche de discussion, des négociations avec les partenaires calédoniens et l'État. Pour cela, il faut que la Calédonie retrouve une vie normale. Pour le moment, ça ne l'est pas le cas. Donc il faut que les choses redeviennent à la normale, que l'on puisse s'inscrire sereinement dans une étape de discussion pour trouver la solution politique pour l'avenir de notre pays.
On rappelle qu'il y a 4 composantes au sein du FLNKS, l'UC, le Palika, l'UPM et le RDO. C'est le RDO qui assure actuellement l'animation du bureau politique et qui a publié l'ordre du jour controversé. Il est très proche de l'Union calédonienne et l'UC fait comme si de rien n'était. Interrogé, son chef de groupe au Congrès, Pierre Chanel Toutougoro, affirme que le congrès du FLNKS se tiendra normalement.
Oui, le congrès va se tenir comme programmé. Donc forcément, il y aura des militants du PALIKA comme des militants de l'UPM qui sont à ce congrès. En fait, ce n'est pas une défection, ce n'est pas une réaction brutale à une démarche sur laquelle ils ne s'alignent pas. En fait, il y a un travail qui a été fait hier après-midi avec le PALIKA, par exemple, le BP du PALIKA, pour expliquer la démarche dans laquelle on s'inscrit. Et puis, avec eux, on a convenu de caler le travail qui va être mené là-bas. L'idée, c'est qu'ils savent pertinemment que, de toute façon, il y a leurs militants qui sont inscrits dans la CCAT. Donc, il faut leur laisser le temps aussi, après, de pouvoir les retrouver, après le congrès du FNKS, et puis regarder un peu les choses qu'ils ont à recaler pour ensuite pouvoir, à travers le congrès de chaque parti, et puis pouvoir ensuite revenir au niveau du FNKS.
Après le congrès avorté de Netshout en juin dernier, pour éviter une présence trop forte de la CCAT, c'est donc un nouveau coup dur pour le FLNKS. Seuls l'UC et le RDO devraient participer à ce congrès de Koumac, mais ils lui ont invité les groupes de pression, les nationalistes et la CCAT, c'est-à-dire tous les petits partis et syndicats de la mouvance indépendantiste. Un congrès au cours duquel la CCAT et l'UC veulent élire un président du FLNKS, et en l'occurrence, leur candidat est Christian Théin. Le débat est donc ouvert au sein du FLNKS entre les ultras et les autres. Et c'est peut-être l'avenir de la coalition indépendantiste qui est en train de se jouer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et justement, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La non-participation du PALIKA et de l'UPM au congrès du FLNKS, prévu vendredi et samedi, peut-elle, selon vous, provoquer l'implosion du FLNKS? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 87% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas croire en l'efficacité du plan sauvegarde, refondation, reconstruction présenté par le gouvernement pour rebâtir la Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Ils sont donc 13% à penser que ce plan sera efficace. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Vos rendez-vous sur notre antenne, on parlera du logement dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi et en particulier de la situation des bailleurs sociaux. Quelle est leur situation et quels sont leurs défis ? Pour y répondre, Jean-François Bodin recevra les trois directeurs généraux des bailleurs sociaux, Benoît Naturel pour la SIC, Christelle Inizan pour le FSH et Maud Perrano pour la SEMAGLO. Et puis, depuis ce week-end, Éloi Goé de l'ère Adjiare est le nouveau président du Sénat coutumier. Il sera notre invité ce matin à 7h30. Quels sont les axes de sa présidence et les chantiers sur lesquels il entend travailler, mais aussi quels sont les défis pour l'institution coutumière qui traverse une période difficile. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h44. Retour dans un instant à l'actualité en Nouvelle-Calédonie, avec notamment ce plan quinquennal de reconstruction ou encore la ville de Nouméa, contrainte de revoir son budget primitif à la baisse de 3 milliards de francs. On en parle juste après ça.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Retour à l'actualité institutionnelle avec la proposition de résolution déposée par Calédonie Ensemble qui demande à l'État un plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie qui a donc été adopté hier par le Congrès. Un texte qui demande notamment une aide financière massive de 500 milliards de francs, Isabelle Pelletier.
Les élus étaient tous d'accord pour constater que l'aide financière de l'État est à ce stade très insuffisante, selon eux, au regard de l'ampleur des besoins. À ce jour, elle s'est élevée à 2,5 milliards de francs pour 145 milliards de dégâts. Quant à la ligne de 26 milliards de francs CFP ouverte par l'IOM, elle n'a permis la mise en place que d'une dizaine de crédits de trésorerie. Enfin, en ce qui concerne les compagnies d'assurance, elles n'ont versé aux entreprises calédoniennes sinistrées que 4% des indemnisations attendues à fin juillet 2024, soit 7,15 milliards. C'est pourquoi, selon les élus, il est d'une urgence vitale désormais de créer un cadre d'ensemble structuré, mais il fallait que le Congrès parle d'une seule voix. C'est ce qu'explique Philippe Blaise pour les loyalistes.
C'est un message fort qui est envoyé à l'État, c'est que la situation est urgente. L'État doit se mobiliser beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que la CAI est au bord du gouffre au niveau de son économie privée, au niveau de ses collectivités. On a le risque d'effondrement systémique et donc nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un texte qui a recueilli la majorité des votes, même si le groupe UNI n'a pas souhaité, par solidarité avec le gouvernement, s'exprimer. Mais c'est important parce qu'il fallait bien dire à l'État que nous avons besoin d'aide financière exceptionnelle tout de suite, sans condition. Et nous avons besoin également d'engager une relance économique. C'est pour ça que notre groupe a tenu à insérer des amendements pour que les chantiers qui ont déjà été décidés par l'État, la prison, le lycée agricole, puissent être financés par l'État pour donner du travail aux Calédoniens, parce que nous avons besoin d'éviter aujourd'hui une crise humanitaire majeure.
Un texte voté également par le groupe UC, FLNKS et nationaliste, qui considère par la voix de son chef de groupe, Pierre Chanel Tutugoro, qu'il est urgent de faire des propositions quant au groupe uni. Il a donc décidé de s'abstenir. Son chef de groupe, Jean-Pierre Djaïwe, explique qu'on ne peut pas demander à l'État un soutien financier massif sans faire de réformes. Après l'étude des 28 amendements proposés, le texte a été soumis au vote. Il a recueilli 40 voix pour, 8 abstentions de la part du groupe uni et une voix contre, celle de l'élu hors groupe, Maria Isabella Saliga-Lutovic.
Les émeutes qui ont touché la ville de Nouméa ont d'importantes conséquences et en premier lieu sur les finances de la commune, bien entendu. Lors du conseil municipal réuni hier soir, les élus ont adopté la délibération modificative numéro 1 du budget principal et des budgets annexes. Le budget primitif 2024 est évidemment revu à la baisse de 3 milliards de francs. Le maire de la commune, Sonia Lagarde, parle même d'une impasse budgétaire.
Pour être très précise, la Nouvelle-Calédonie doit aujourd'hui à la commune 5,5 milliards. On a eu un autre petit massacre qui est arrivé entre-temps, qui est celui de la diminution du FIC, où là, on a perdu 1,2 milliard. Et aujourd'hui, on doit 2,6 milliards à des entreprises sur des travaux qui ont été faits. Et donc, on est obligé de les payer au compte-gouttes. La situation, c'est qu'on a aujourd'hui à sortir 700 millions par mois pour payer nos 1800 agents. Et donc, on a priorisé le paiement des agents, bien évidemment. Et puis, on paye au compte-gouttes les entreprises, ce qui n'est absolument pas satisfaisant parce qu'on les tire vers le bas. Et sur le plan économique, c'est vraiment extrêmement compliqué.
Et face à ces baisses de recettes, les élus ont pris des décisions. Un certain nombre de travaux prévus ne pourront pas être effectués. Il a aussi fallu procéder à des ajustements d'organisation dans plusieurs services. Et malheureusement, nous a dit Sonia Lagarde, revoir à la baisse les festivités et animations prévues pour les fêtes de fin d'année.
C'est la mort dans l'âme que ce soir on a fait passer la résiliation du contrat qu'on avait avec Océania, mais aussi avec Charles Germain. Hein. Il n'y aura pas de feu d'artifice le 1er janvier, il n'y aura pas non plus de féerie de Noël. On va faire la partie qui était faite d'habitude par les services de la mairie, c'est-à-dire l'illumination des arbres. On essaie de maintenir avec des compagnies locales quelques spectacles pour les enfants. Pas sur un mois comme ça se passait avant, mais je crois que les enfants ne sont pas responsables de tout ça et qu'on se doit encore de leur offrir quelque chose et un peu de joie et un peu de magie à Noël. Donc voilà, oui, c'est la mort dans l'âme qu'on est obligé de faire ça parce que des milliers et des milliers de Calédoniens étaient présents sur cette féerie de Noël, sur le feu d'artifice. Eh bien, cette année, pas de feu d'artifice et une féerie à minima.
Quant au bilan des émeutes sur les structures municipales, il est très élevé. 37 bâtiments municipaux ont été brûlés pour des dégâts évalués à 6 milliards de francs. Le travail se poursuit avec les assurances avant de pouvoir envisager d'éventuelles reconstructions. En bref, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni hier matin pour une séance présidée par Isabelle Chamorreau, la vice-présidente. Louis Mapou est en effet actuellement hors du territoire puisqu'il participe au 53e sommet du Forum des îles du Pacifique. On retiendra que le gouvernement a modifié l'arrêté sur la licence d'exploitation de transport aérien public de la société Air Calédonie Internationale. En clair, il s'agit de préparer l'ouverture d'une liaison Nouméa-Bangkok, qui est le premier segment de la liaison Nouméa-Paris que veut développer Air Calin. L'escale de Bangkok est située à mi-chemin entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole et correspond donc à la capacité de vol des avions de la compagnie. Il ne s'agit pour l'instant que d'une décision administrative. La ligne Nouméa-Bangkok ne devrait pas être effective avant 2026. Et puis justement, le 53e sommet du Forum des îles du Pacifique se poursuit toujours et les membres se sont mis d'accord, Isabelle Pelletier, sur un partenariat policier commun.
Oui, sous l'impulsion de l'Australie, cette police doit renforcer la capacité des pays de la région à respecter les exigences en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure et à se soutenir mutuellement en cas de besoin. C'est ce qu'a fait savoir le cabinet du Premier ministre australien. 4 centres régionaux de forces policières pourraient être créés. Cette initiative est présentée comme une tentative de limiter le rôle de la Chine en matière de sécurité. sécurité dans la région. D'autre part, une mission du FIP devrait bien se rendre en Calédonie. Cette mission d'observation, dont la France avait accepté le principe, n'a pas pu avoir lieu avant le sommet du Forum en raison d'une réticence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de travailler à son organisation avec l'État. Finalement, cette mission, qui sera composée de chefs d'État et de gouvernement de la région, devrait se rendre sur le territoire en octobre.
Merci beaucoup Isabelle Pelletier. Il est 6h passé de 51 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale. L'actualité en métropole également avec ses tractations à Matignon.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Journée portes ouvertes à l'Université de la Nouvelle-Calédonie le samedi 7 septembre de 9h à 15h. Vous envisagez de poursuivre vos études après le bac et souhaitez découvrir ce que l'UNC peut vous offrir? Ne manquez pas notre journée portes ouvertes le samedi 7 septembre de 9h à 15h sur le campus de Nouville. Et en province nord, l'équipe du campus de Baco participera également en présentant les formations universitaires sur son stand au centre commercial Théari de 8h à 13h. Venez nombreux!
Université de la Nouvelle-Calédonie, bâtir, transmettre, rayonner.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale pour la suite de ce journal est toujours pas d'avancée pour une nomination à Matignon. Qui pour remplacer Gabriel Attal? Les consultations se poursuivent. La droite républicaine continue de son côté de marteler son refus de tout pacte gouvernemental. Laurent Wauquiez, le chef des députés de la droite républicaine, était d'ailleurs reçu à l'Élysée cette nuit pour nous. Le reportage de Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Les Républicains refusent de saisir la main tendue du gouvernement et appellent Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités sans les rejeter sur les oppositions. C'est le message exprimé par Laurent Wauquiez il y a quelques heures dès sa sortie de l'Élysée.
Cet entretien s'est malheureusement avéré décevant. Aucune position nouvelle, pas de véritable projet pour les Français structuré. Nous avons dit au président de la République qu'il fallait maintenant qu'il nomme enfin un Premier ministre pour sortir de la crise qu'il a lui-même provoquée avec la dissolution. Il n'y a plus aucune raison maintenant de procrastiner.
En clair, le temps presse selon la droite républicaine qui maintient sa ligne d'indépendance mais propose un pacte législatif autour de plusieurs priorités comme la sécurité, la revalorisation du travail ou encore l'immigration. Une proposition considérée insuffisante par le chef de l'État. Reste qu'avec la mise à l'écart de Lucie Castel, la candidate commune de la gauche, et le refus de la droite de s'allier au gouvernement, le cycle des consultations voulu par Emmanuel Macron n'aura pas permis de trouver un remplaçant à Gabriel Attal avant l'ouverture des Jeux Paralympiques.
Mayalène Trémollet pour Europe 1. Toujours dans l'actualité en métropole, trois rassemblements cette nuit pour nous après la mort tragique d'Éric Comines. Ce gendarme de 54 ans a été tué après avoir été violemment percuté par un chauffard en refus d'obtempérer. Sa veuve a pris la parole dans un hommage poignant à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, devant les frères d'armes de son mari. Elle a cité, donc je l'affirme, haut et fort, la France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. En fin de journée, mercredi, un dernier rassemblement a réuni environ 500 personnes devant l'hôtel de ville de Cannes, où le maire David Lisnard a pris la parole.
Dans un contexte où parfois, y compris certains représentants de la nation, mettent en cause les forces de l'ordre, nous ne pouvons plus, nous n'acceptons plus les ressorts du laxisme qui mènent à ces décès infondés. Si l'on veut éviter que la France tombe dans l'autoritarisme, il est temps de retrouver l'autorité juste de l'ordre républicain. Nous ne voulons pas de mesures extrêmes. Ce que nous voulons, c'est qu'un multirécidiviste, lorsqu'il est étranger, soit expulsé du territoire national. Lorsqu'il est français, qu'il soit réellement condamné, que les peines soient appliquées.
Le suspect est un Capverdien âgé de 39 ans, multirécidiviste et qui était alcoolisé au moment des faits au volant de sa BMW série 5. Et il affirmait ne pas avoir vu le gendarme avant de le percuter. Le parquet de Grasse a ouvert une information judiciaire pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer. Il est 6h55, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et ça y est, c'est parti pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 puisque la cérémonie d'ouverture a commencé à 5h.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du
jeudi 29 août au dimanche 1er septembre, la Chambre de métiers et de l'artisanat organise le 6e salon Saveurs et Traditions. Gourmet et gourmand, ce salon est fait pour vous avec de nombreuses démonstrations et dégustations. Le salon Saveurs et Traditions, c'est à la Maison des Artisans Route de Nouville du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre et l'entrée est gratuite. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Et on rallume la flamme.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est donc parti pour 11 jours de compétition. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 a lieu en ce moment. Elle a débuté avec un défilé entre les Champs-Élysées et la Concorde. Avant cela, 12 porteurs de flammes au total sur la terrasse des Jeux sont venus tendre leurs torches pour allumer le chaudron circulaire en acier paralympique. Devant l'hôtel de ville de Paris, le public avait hâte de rouvrir cette parenthèse enchantée à l'image de Catherine.
Et c'est vrai qu'entre les deux Jeux, eh bien, j'ai senti vraiment un grand manque. Et c'est ça qui m'a poussée justement à revenir pour revivre exactement cette effervescence qui m'a franchement vraiment manqué.
Une ferveur confirmée par Olivier Degnaud, le coordonnateur du pôle France athlétisme handisport de Nouméa à la Fédération française. Le public, les entraîneurs et les athlètes semblent déjà conquis.
J'ai eu l'occasion de me balader un peu sur les Jeux Olympiques. Je me suis arrêté le jour pour prendre un café. J'avais le maillot France. Tout de suite, t'es abordé. Les gens du fait dans les Paralympiques, etc. Donc, ouais, le public s'intéresse énormément. Les étrangers que j'ai croisés, que je connais, sont enchantés par tout ce qu'ils voient pour l'instant. Moi, j'ai eu que des retours positifs des Jeux organisés par la France.
Et on le rappelle, 3 Calédoniens sont donc engagés dans ces Jeux paralympiques, tous en para-athlétisme. Dans la catégorie fauteuil, Pierre Ferbanque entrera en piste sur le 400 mètres, le 100 mètres, puis le 800 mètres. Et Vittorio Cavacava et Félicien Sciappo vivent leurs premiers Jeux paralympiques. Toujours dans la catégorie fauteuil, le premier sera engagé dans les lancers de javelot et de poids. Et quant au second athlète, il disputera une seule course, le 100 mètres, dans la catégorie ambulant.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, le reste du sport. Ce matin, du football et Lille qui se déplace sur la pelouse du Slavia Prague en match retour de barrage pour la Ligue des Champions. Le coup d'envoi a été donné à 6h. C'est donc la mi-temps et les Lillois qui sont menés 1-0. Le LOSC qui est en ballotage favorable après avoir remporté tout de même le match aller 2-0. En cyclisme, l'Irlandais Eddie Dunbar s'offre la 11e étape du Tour d'Espagne au terme d'une course au rythme très élevé et marquée par une échappée de 40 coureurs. Au classement général, pas de changement, ou presque. L'Australien Ben O'Connor est en tête avec 3 minutes 16 d'avance sur Primoz Roglic. Henrik Maas monte sur le podium du classement provisoire à 3 minutes 58.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, grand soleil sur l'ensemble du territoire ce matin. Toutefois, sur la côte est et les Loyautés, elles verront circuler des bancs de nuages qui donneront parfois quelques gouttes en début de journée. Sur l'ouest, de faibles brises se lèveront en début de matinée. Ailleurs, l'Alizé sera orienté à l'est. Il soufflera autour des 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et plutôt 10 à 15 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins. Cet après-midi, le très beau temps se maintiendra sur le territoire. Sur la pointe nord, le vent, lui, sera orienté à l'est entre 15 et 20 nœuds. Sur la côte est et les Loyautés, il faiblira autour des 10 nœuds. D'est-sud-est, sur la pointe sud et l'île des Pins, il soufflera de nord-est entre 10 et 15 nœuds. On termine donc pour cet après-midi avec les températures maximales. Elles sont stables, allant de 24 degrés à l'île des Pins jusqu'à 27, voire 28 degrés. Ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.